Bon, on va quand même dire un mot sur Sukkot, bien que ce soit toujours un peu paradoxal de parler de Sukkot avant Kippour, mais c'est comme ça. Il y a une Mishnah très connue dans Masechet Sukkah qui dit Yardou Kshamim, c'est mis à pleuvoir. Donc ça devient désagréable d'être dans la soukha. Mais matay mutar les fanot. À partir de quand est-ce qu'on peut sortir de la soukha? D'abord, il faut dire une chose, c'est que la soukha, c'est une mitzvah particulière. Étant donné qu'on doit y vivre comme on vit normalement, a priori, quand... Bonsoir. Quand dans une pièce il se met à couler, ben on reste pas dans cette pièce. Donc, quand on est dérangé dans un soukha, par quoi que ce soit, d'une certaine manière, on peut sortir de la soukha. Alors du coup, évidemment, s'il pleut, on peut sortir. Et la question est de savoir, à partir de quelle intensité de pluie est-ce qu'on peut sortir? Alors la Gemara, elle rapporte, la Mishnah, elle rapporte ce machal, une parabole, pour dire, pour comparer effectivement cette situation. C'est un Eved, c'est un serviteur qui vient limzog kos le rabo, il vient verser un verre pour son maître. Veshafach lo kiton al panam. Et il lui a versé toute l'eau sur son visage. Shafach lo kiton shel maim al panav, dit Rashi. Parce qu'en réalité, c'est pas marqué seulement, c'est pas marqué qu'il vient verser. Du temps de l'Agmara, on utilisait un vin qu'on ne pouvait pas boire s'il n'était pas très fortement coupé. Il maîtrisait pas la fermentation, enfin, ou l'arrêt de la fermentation. Donc ça devenait très vite quelque chose d'imbuvable, un truc épais. Il fallait couper. Couper, ça voulait dire à peu près une mesure de vin et six mesures d'eau, quelque chose comme ça, parce que sinon c'était pas buvable. En plus, j'ai lu quelque part que les Romains, ils coupaient leur vin avec de l'eau de la mer. C'est pas tout à fait comme ça qu'on se représente le vin, mais il faut dire par ailleurs que le vin était une boisson courante. Probablement qu'on pouvait forcément boire l'eau sans la couper. Enfin, sans mettre un peu de désinfectant dedans. Donc, en fait, on buvait du vin, mais le vin était coupé. Alors, quand en hébreu, l'expression, on dit mozeg. Et mozeg, ça voulait dire, on vient lui couper. C'est pour ça qu'il a de l'eau. Et pour ça que Rashi dit, ce qu'il lui a versé, c'est l'eau. Il n'a pas versé le vin sur le visage. Il a versé l'eau parce qu'il venait pour lui couper son vin. C'est ça, je pense que on lui mettait un fond de vin, puis ensuite l'esclave venait lui couper, enfin lui ajouter de l'eau. Il vient avec ça et il fait un faux mouvement, ou si c'est l'esclave qui lui a versé, il lui a versé sur le visage l'eau. Pardon? Ben oui, on pouvait, au contraire, c'est sur le, si on avait bu le vin tel qu'il était, c'est imbuvable, il était peut-être tellement mauvais qu'on faisait aucune bracha, d'abord parce que probablement que ça va être mauvais pour la santé, imbuvable, non, Le couper, pour nous, c'est un problème parce que normalement, nous, on coupe pas le vin, on coupe plus le vin. Enfin, ou bien c'est déjà fait, ou bien on coupe pas. Alors, on a du coup, si on coupe trop, ça n'a plus de goût de vin, on peut plus faire un Geffen. Mais on ne pouvait faire un Geffen ou un Geffen que s'il était bien coupé. Sinon, c'est pas du vin.
Mais c'est le serviteur qui jette l'eau à la tête de son maître.
Alors, c'est pas très clair, et on a l'impression dans le texte que c'est le serviteur qui s'est trompé, et qui a versé l'eau sur le maître. Mais il y a une autre version, il y a une autre lecture possible qui est que le maître s'est fâché pour une raison ou une autre, il lui a pris le broc d'eau et il l'a jeté à la figure. Donc, on va voir. Alors, la question que ici il pose, c'est pourquoi on n'a pas pris dans la Mishnah une situation plus simple? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un serviteur qui vient apporter un verre à son maître et il lui a versé sur le visage? Pourquoi faut dire qu'il est venu, l'imzoglo, kos, et puis... Pourquoi il faut parler de etmozeg, il vient lui couper le kos, et que ce qu'il lui a versé, c'est le kiton, c'est le broc d'eau qu'il lui a versé. Il n'a pas versé simplement un petit peu, mais tout le broc. Alors le Gaon de Vilna, il explique que Rosh Hashanah et Kippour sont des Yemei Adin, comme on dit. C'est les jours de jugement, donc. Ensuite, il vient les jours de fête. Il vient Sukkot, qui est le jour de fête. Et dans ce jour de fête, il y a la mitzvah de Lulav et la mitzvah d'habiter dans la Sukkah. Ces jours-là, ces jours de fête, par opposition, deviennent des jours de rachamim, des jours de tendresse de la part d'Hachem, qui viennent adoucir les dinim des jours précédents, de Kippour et Rosh Hashanah et Kippour. Comment ça se fait? Grâce aux mitzvot qui nous entourent, en quelque sorte. La mitzvah de Sukkah est la seule mitzvah qui entoure le corps, c'est-à-dire le corps est plongé dans la mitzvah. Les autres mitzvot, c'est des mitzvot dans lesquelles on agit, une partie, on tient quelque chose en main, ou etc. Mais la mitzvah de Sukkah, elle est de ce point de vue-là beaucoup plus puissante en quelque sorte, puisqu'on est au sein de la mitzvah, on est dans la mitzvah. Et d'accord, on remplit, on fait les brachot, puisqu'on fait le lulav. Le chef Basuka, c'est... Maintenant, quand la pluie tombe, qui nous oblige à ne plus accomplir, enfin ne pas accomplir à ce moment-là la mitzvah de Sukkah, alors c'est un peu embêtant, hein, parce que quelque part, ça a l'air de dire que HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas tellement envie d'adoucir les dinim. Parce que si on reste avec les dinim tels qu'ils étaient, Yom HaDin de Kippour et Rosh Hashanah et Kippour, et qu'on ne peut pas vraiment faire pleinement la mitzvah de Sukkah, alors cette meziga, on sait très bien, meziga c'est justement ce mélange de l'eau. On met de l'eau pour adoucir le vin, pour le rendre buvable, en fait. Et le vin, de ce point de vue-là, il représente le din. Faut dire, il reconnaissait, je crois, comme vin quasiment que du vin rouge. Il y a toute une discussion pour savoir si le vin blanc c'est du vin. Le Ramban, il aime pas le vin blanc. Donc, qui douche ou comme ça, il n'est pas... Ramban, il n'aime pas beaucoup qu'on utilise du vin blanc. Ouais, les Alsaciens peut-être. Pour moi, il y a du vin, très bon vin blanc, mais... Pour Ramban, il vaut mieux faire quelque chose sur le vin rouge. Sérieusement, c'est écrit dans le Coran. C'est du vin. Qu'est-ce que vous voulez que je dise contre... Ramban, il dit que pour lui, c'est pas vraiment du vin. Et du coup, parce que c'est rouge, alors c'est la Milata Din. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles On est mosaïque, même si aujourd'hui on n'ajoute pas de l'eau, on ne coupe pas notre vin, mais mettre une goutte d'eau le soir, le kiddush du soir, parce que le soir c'est déjà le din, si en plus vous prenez du rouge qui est le din, alors on adoucit le din en mettant une goutte d'eau. Donc on comprend pourquoi il y a cette idée de mizug adin, de mizug à kos, c'est-à-dire on est en train de mélanger pour atténuer en quelque sorte quelque chose. Et le maître, semble-t-il, là, dans cette... eux, ils disent comme ça, c'est que le maître qui lui a jeté l'eau. Et c'est pour ça qu'on dit... il lui a jeté un brodo entier sur le visage, c'est-à-dire il a dit, je ne veux pas de meziga, je ne veux pas mélanger, je ne veux pas. C'est comme ça que le Gaon lit cette Mishnah. On peut aussi faire remarquer en passant que le mot kos, kaf, vav, samer, c'est 86, et 86 c'est Elohim. C'est la gamatria du nom divin qui fait référence à la Midat Hadin. Alors que Maïm, l'eau, ça fait référence au Chesed. Donc, on a le vin qui fait référence, c'est le rouge, c'est la Din, et l'eau vient atténuer le Din. Et le maître qui lui balance le broc à la figure, enfin l'eau du broc à la figure, il dit je veux pas de meziga. On voit donc du Gaon de Vilna que le machal, la parabole qui est utilisée ici, c'est l'esclave, enfin le serviteur a amené un broc d'eau pour mélanger cette eau au vin qui était dans le verre, et ce broc d'eau que le serviteur voulait utiliser, son maître le lui a jeté au visage. Alors ça c'est le machal, la parabole. Quel est le nimshal? Qu'est-ce qu'on veut représenter avec cette parabole-là? A priori, on veut dire la fête de Sukkot et les mitzvot de Sukkot, elles ont pour but d'atténuer les dinim de Rosh Hashanah et Kippour. Et donc quand il nous tombe de l'eau sur le... quand Hachem nous envoie de l'eau, on ne peut plus faire complètement la mitzvah. C'est un siman, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que nous atténuions les dinim. Bon, alors, ça colle pas complètement, n'est-ce pas? Mais bon. Le Maharil, c'était un grand décisionnaire de la vallée du Rhin, dans Rashi, si vous voulez, en gros, un peu plus tôt. Il écrit dans ses halakhot de Sukkot, Sukkha, c'est gematria shel shem avaya ve'adnut. Sukkah, la gematria, c'est 91. Et donc c'est 26 et encore 65 qui est le Adon. Le nom de le tétragramme, alors 26, c'est le Chesed. Et le Adon, c'est la Midat Hadin. Si on met les deux noms ensemble, il y a donc ce mizug du din, cette atténuation du din par le chesed, et donc c'est amtakata dinim, c'est adoucir les dinim, et donc c'est ce que le Gaon a expliqué avec la sukkah. Le tour, qui est le grand décisionnaire, il dit la même chose, il dit la Sukkah, la fête de Sukkot, ça correspond à Yaakov Avinu, parce que Abraham, c'est Abraham Avinu, c'est Pessah. Et donc, le Yaakov Avinu, donc, puisqu'il représente la fête de Sukkot, Abraham, il a à voir avec l'amida du Chesed, Yitzhak, l'amida la Gvura, la Din, et donc le Din de, le Din, et donc Yaakov, qui est l'amida Taemet, Tiferet, c'est le mélange entre Din et Chesed. Bon, voilà, c'est très joli tout ça, mais on ne comprend pas grand-chose, on va quand même essayer de comprendre. En réfléchissant un peu plus dans ce que Chazal nous ont dit, on voit que Sukkot, en plus d'être appelé Zman Simchatenu, le temps de notre joie, c'est-à-dire que on est, qu'est-ce que c'est la joie de Sukkot? C'est la joie de ce qu'Hachem a agréé notre démarche, c'est qu'il a agréé notre Yom Kippour, en quelque sorte. C'est donc la dernière brique à l'édifice, c'est, on termine la tshuva des Yamim Noraim, d'accord, puisqu'on voit que Hachem a agréé notre démarche. On verra plus bas plusieurs enseignements des Chachamim qui vont dans ce sens-là. Le Zohar écrit, Akadosh Baruch Hu donne aux hommes Yom Kippour, le jour de la Tshuva, et si on fait Tshuva comme il convient, etc., si on a fait Tshuva, mais pas vraiment parfaitement, comme il faudrait, alors le Zohar dit, alors on attend, il est en suspens jusqu'à Shmini Atzeret. Et si on a fait Tshuva à ce moment-là, alors on déchire les petits papiers qui nous condamnaient. Même chose, à un autre endroit, au lieu de dire Shmini Atzeret, il dit Yom Shana Rabba. Bon, alors, si vous voulez, c'est Hoshana Rabba, c'est le jour juste avant Shmini Atzeret. On dit, on va jusqu'à Shmini Atzeret, y compris Hoshana Rabba. C'est pour ça qu'on a dit Hoshana Rabba, c'est le grand salut, en fait, c'est la der des der, bien qu'en réalité, il y a pas mal de chassidim, en tout cas, qui disent que on a jusqu'à Hanouka, en réalité. Mais bon, c'est pas homologué par tout le monde. Mais bon, pour l'instant, on peut choisir d'être chassid, je veux dire, si ça permet d'aller jusqu'à Hanouka. Le Midrash Tanhuma, il enseigne Ma Kadosh Baruch Hu Ose. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Omer Lahem Asu Tshuva, Berosh Hashanah. Depuis Rosh Hashanah, il leur dit de faire tshuva. Et ils vont, les gens, les juifs, ils vont, Bayim Biyom Kippour, ils jeûnent, ils font tshuva, que Rosh Baruch Hu leur pardonne. Et qu'est-ce que eux font? Erev Rosh Hashanah, Gdole Ador, Mit'anim, les grands dans la génération Erev Rosh Hashanah, ils jeûnent. Akadosh Baruch Hu, Mevater Lahem, Shlish Avanotem. Avec ces jeûnes, Akadosh Baruch Hu, dit le Midrash, il leur fait grâce du tiers des fautes qu'ils ont faites. Donc il pardonne un tiers. A Yom Kippour, Kol Israël Mitanim. A Yom Kippour, tout le monde, tous les juifs jeûnent, et ils supplient, ils demandent la tendresse, les hommes, les femmes, les enfants, Akadosh Baruch Hu leur pardonne tout. Alors qu'est-ce que les Israël font? Ils prennent leur lulavim, à Yom Tov, le premier jour de Chagat Sukkot, et ils disent le Hallel, et ils chantent, et ils disent des louanges devant Hachem. Akadosh Baruch Hu agrée cela, et il leur pardonne, et il leur dit, Vitarti lachem al kol amalotechem, en rishonot. Je vous ai pardonné à toutes vos, je vous ai pardonné toutes vos fautes et aval me'arshav ou rosh cheshbon. Mais à partir de maintenant, c'est un nouveau compte. Donc on voit ici que la fin de la mechila, la fin du pardon, l'agrément, il est obtenu avec Netilat Lulav, en prenant le Lulav. Avec le Lulav, il vient le Hallel et les louanges d'Hachem. Il faut comprendre. Akadosh Baruch Hu, il avait déjà pardonné à Kippour. Donc qu'est-ce qu'il faut encore faire? Puisque, c'est fait. Il nous a pardonné à Kippour. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire pardonner à Sukkot? Puis en plus, c'est pas tellement évident de comprendre comment par la mitzvah lulav, ça arrange les affaires. S'il y a quelque chose à arranger, en quoi de secouer un lulav, ça arrange les affaires. Agmara, toujours dans Masechet Sukkah, elle dit « Kol ha-notel lulav be'ogdo » Ve'adas ba'avoto, male alav akatuv ki ilu bana misbeach, ikriv alav korban, comme c'est marqué, ischuchak ba'avotim antarnot amisbeach. La Gemara, elle dit que celui qui prend un loulav, attaché avec les quatre espèces, enfin les trois espèces attachées plus le hétrog, et il prend aussi les adasim, la cime avec leur, les feuilles des hadassim, elles tournent comme ça. C'est quand on regarde, quand elles sont plantées de telle sorte que ça tourne comme ça, c'est ça. La Gemara a dit, c'est comme s'il avait construit un hôtel, un misbéach, qu'on avait approcher un corban. Jusqu'où un loulav, tu prends, donc là il y a des adassim. Amir. Pourquoi est-ce que. Est-ce que c'est tellement grand? Construire le misbéach déjà et apporter le corban dessus sur le misbéach, c'est quand même, ça semble tellement énorme que ça semble disproportionné par rapport à la mitzvah de l'oulav. Tanchuma il dit Elu arba minim shebalulav shekol echad veechad miyisrael olech veratz nikach mehem lahalel lifnei akadosh baruch hu. Ces quatre espèces, tout le monde court en quelque sorte avec son loulav pour dire les louanges d'Hachem. Sheitratze lo vichaper lo kol avonotav. Midrash aussi dit, pour qu'Hachem agrée sa démarche et lui pardonne toutes ses fautes. Il lui lave, qui pour c'est laver la faute, hein? Il lui lave toutes les fautes. Là on voit que dans le Tilat Lulav, il y a un processus de ritsouï de la tshuva. C'est-à-dire, c'est un processus, c'est la phase terminale du processus de la tshuva et l'agrément de la tshuva. Retsé, ça veut dire, on demande à Hachem d'agréer. C'est pas dans la Amida, dans la Shemoneh Esrei, on a les trois bénédiction de louange au départ, il y a le milieu qui sont les demandes, et après, avant modim, avant la reconnaissance, etc., il y a retsé. On demande à Hachem, agrée tout ce que j'ai demandé. On demande à Hachem de bien vouloir agréer. C'est pas évident qu'on puisse se contenter seulement de demander. Il faut demander, et il faut aussi demander qu'il agrée. C'était resté, je ne sais pas comment, dans les formules de politesse, dans les lettres, veuillez agréer, etc. Chazal demande comment se fait-il que. Enfin, pourquoi on a choisi un étrog? Dans la Torah, ce n'est pas marqué le mot étrog. Dans la Torah, c'est marqué Etz Hadar, pris Etz Hadar. Sur ce mot Hadar, il y a beaucoup d'explications. Mais en tout cas, le mot étrog, il n'est pas là, mais on a une tradition. La Gemara, elle envisage qu'est-ce que ça pourrait être, si c'est. Finalement, on arrive à la conclusion, on a cette tradition, c'est le cédra, c'est l'étrog. Alors, la Gemara, elle donne une drôle de réponse, c'est surprenante un peu pour nos petites idées, en fait, c'est Udomé la lève, le chaper à l'irour à lève. L'étrog, il ressemble au cœur. Il apporte la capara sur les hirouré à lève, c'est-à-dire les pensées qu'on a eues dans le cœur. C'est-à-dire, dans l'intérieur, on a eu des idées qui n'étaient pas toujours très nettes. Alors, Magma demande pourquoi des Hadassim. L'Hadassim, alors, la Gemara dit Hadassim, ça ressemble aux yeux. C'est comme ça, comme un œil. Le Chaper al-Sikurain. On a regardé les choses qu'il ne fallait pas regarder. Pourquoi Arava? Arava, ça ressemble aux lèvres. Le rapper al-bitus fataim, à l'expression des lèvres, c'est-à-dire quand on a parlé, à un moment il ne fallait pas parler. Et pourquoi la palme? Pourquoi le loulav lui-même? Je veux dire, mal ou lavze en lo ela levechad. Car Israël en laem ela levechad la viem sheba shamayim. De même que ce loulav n'a qu'un seul cœur, cœur de palmier, quoi. Je sais pas pourquoi on dit qu'il n'a qu'un seul. Il a un seul cœur, mais enfin il y a. Ces paroles des Chachamim sur l'accaparat des diverses espèces au moment dans les mitzvot de Sukkot. En fait, renforce la question. Quel reste de faute faut-il encore faire pardonner après Kippour? On a dit Al-Khet. Besikuraïn, c'est un Al-Khet. Bitu Isfataïm, c'est Al-Khet. Il y a Al-Khet sur chacune de ces choses-là. Et si on a besoin de faire pardonner, en quoi ces choses-là sont-elles efficaces sur le plan du pardon? Alors, on va parler d'un petit peu autre chose, mais on va retomber après sur le pied. Le Rambam Maïmonide, ici, il dit « Asimcha sheismach ha'adam be'asiyat ha'mitzvot » ou ba'avat akel, shetziva ba'em avoda gdolai. Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot. Il nous a donné tout un service à lui donner, en fait. Et il faut accompagner ça avec de la simcha. Et c'est un travail de se réjouir réellement. Ce privilège d'avoir des mitzvot. C'est chacun d'entre nous, s'il lui était confié une mission par quelqu'un de très important, on est fier, on est heureux de pouvoir rendre service le cas échéant. Là, c'est Hachem lui-même qui nous a demandé de faire certaines choses. Donc il y a lieu de s'en réjouir. Et il dit, tout celui qui se prive de cette simcha, il devra le payer. Et le Rambam s'appuie pour dire cela sur un pasouk terrible, puisque c'est le pasouk de dans les klalot, tachat asher lo avadta et hashem elokecha besimcha. D'accord? Les klalot, elles ne sont pas, on a déjà dit plusieurs fois, elles ne sont pas dites pour quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot. Les klalot sont dites pour quelqu'un qui fait les mitzvot en traînant les pieds. Il fait les mitzvot et sans joie. Bon. C'est tout un problème parce qu'il y avait, tout un judaïsme qui faisait les mitzvot à la prussienne. Je veux dire, c'est des plichts, ça veut dire le devoir, par devoir. C'est par devoir, c'est pas très. En général, on ne fait pas son devoir avec Simra. Peut-être qu'il était capable d'être, de faire par devoir avec Simra, je ne sais pas. Mais c'est un peu paradoxal. Il faut comprendre. Pourquoi le Rambam ramène cette halakha dans Hilchot Lulav? On met ça en plein milieu de Hilchot Lulav. Lulav, tu me dis quelle hauteur, comment doivent être les feuilles, etc. Qu'est-ce que tu vas me raconter le problème de la Simcha? Qu'est-ce qui mêle là, ici, ce truc? Ouais. On parle d'une halakha klalit, on ne parle pas seulement, il ne vient pas dire seulement la Simcha de Sukkot. Il dit toutes les mitzvot. Maintenant, dans Chazal, au sujet des 98 kvassim, les agneaux qu'on amenait à Sukkot, c'est marqué kvassim keneged Israël shnikru se pezura. Israël a appelé un agneau perdu en quelque sorte. Vem kvuim ou minyanam tishim ushman. Et ces korbanot, c'est clair, il y en a 98. Ça fait évidemment référence aux 98 klalot de la parasha de Kitavo. Donc, comme si on allait apaiser ces klalot en quelque sorte avec les kvasim. On voit dans le Chazal que ces klalot qui sont mentionnés dans Parashat Kitavo, dans lequel il y a ce fameux verset de Tochat Asher lo avadta et Hashem Elokecha besimcha, d'une certaine manière, il faut les compenser, il faut les apaiser avec les kvasim de Sukkot. De nouveau, là, qu'est-ce que ça a à voir l'un avec l'autre? Il y a beaucoup de gens ont l'habitude, en entrant dans la soukha, ils disent un certain Yehi Ratzon, petite prière. La source de cette prière, elle est dans le Midrash Yalkut Shimoni, Parshat Emor. Il est marqué, on dit dedans, Ubisrut Tseeti mi Beti, Achutsa, par le mérite que je sors de ma maison. Et je suis le chemin de tes mitzvot. Je demande que ceci me soit compté, comme si en fait j'étais parti en galoute en quelque sorte. Et que d'une certaine manière, ça lave mes fautes en quelque sorte et ça me purifie de mes chataïm. Tetiv lanu achatima, et que la chatima, le saut final en quelque sorte, soit positif. Tezakenu leshev yamim al ha'adama Admat à Kodesh, Bavodatecha ou Biratecha. Que nous ayons le mérite de résider sur la terre, sur la terre sainte, pour y faire ton service et dans ta crainte, dans la crainte d'Hachem. On voit dans ce texte que sortir de la maison pour aller dans la soukha, c'est considéré d'une certaine manière comme un galout, comme un exil. Ça aussi, il faut comprendre pourquoi on doit partir en exil. Va en exil celui qui a tué par inadvertance. Pourquoi il faut partir en exil? Et puis en plus, si vraiment on était chayav de galout, alors comment le seul fait de sortir de sa soukha pour aller dans sa maison pour aller dans la soukha, ou dans laquelle on a teshvu kein tadur, où on doit vivre comme on vit dans la maison, etc. Comment ça marche? Comment ça vaut exil? Si on a besoin d'un exil, comment cette petite chose-là vaut exil? C'est difficile. Maintenant, il se peut, en réalité, qu'à la suite des dinim de Rosh Hashanah et Kippour, on soit condamné à autre chose qu'un galout. Alors pourquoi à Sukkot, on veut seulement compenser le riouf de galout, mais peut-être qu'on est... Si déjà, on peut imaginer qu'on est condamné à autre chose, condamné à des coups, condamné à mourir, condamné à... Puis ensuite, qu'est-ce qu'on vient parler à la fin, les Shev Yamim Rabim Beretz Israël, avec Raga Sukkot Zman Simchatenu, ça n'a rien à voir. Bon, on arrête, il y a des questions. Il y a un sefa qui s'appelle Bet Ephraim, qui a clarifié, qui a expliqué les choses de manière suivante. Il y a une ma'ala yetera, il y a quelque chose de très positif dans la simcha shel mitzvah, la simcha qui accompagne la mitzvah, parce que ça montre qu'on sert par amour. Par conséquent, cette simcha-là, elle est très importante parce qu'on montre qu'on a voulu faire de la simcha à Kadosh Baruch Hu, en faisant sa volonté. Le serviteur qui fait son travail, mais sans simcha, il le voit comme, bon, c'est une obligation, il est payé pour, ou il est esclave, enfin bref, pour faire ce travail. Et évidemment, il cherche à s'en débarrasser le plus rapidement possible. On veut pas ça. On veut montrer que pas du tout, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Le Midrash, dans Parashat Emor, Midrash Rabba, il dit, Ulkartem lachem beyom arishon, vous prendrez pour vous le premier jour de Sukkot. Pourquoi c'est marqué premier? On dit Rishon hu. Pourquoi tu l'appelles premier? C'est le 15 Tishri. Pourquoi il se rappellerait tout à coup premier? Et la Rishon Hu le Cheshbon Avonot. Il est le premier dans le décompte des fautes. On l'a vu en haut. Hachem a dit, maintenant commence un nouveau décompte. Alors comment, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça commence pas le lendemain de Kippour? Alors le Tour explique là-bas que pendant les 4 jours entre Kippour et Sukkot, on fait des mitzvot, on est occupé avec la soukha, avec le loulav, on n'a pas le temps de faire des averot. Donc, ça ne vaut même pas la peine de compter, on n'a pas le temps. Donc, on comprend un petit peu cela. à partir du fait que la Gemara dans Yuma, elle avait fait une différence entre Tshuva Me'ahava et Tshuva Me'ira, vous vous souvenez. Tshuva par amour et Tshuva par crainte. Que si on fait Tshuva Me'ira par crainte, alors les fautes deviennent, les fautes commises en toute connaissance de cause, deviennent des fautes commises, sont traitées comme des fautes commises par inadvertance, sans qu'on soit vraiment investi dans la faute. Donc beaucoup moins grave. Par contre, si on fait une tshuva me'ahava, alors les fautes deviennent des mérites. Si on était à moins 5, on devient à plus, on se retrouve à plus 5 après la tshuva. Et on avait remarqué que Chazal dit, dans le passouk, on dit Dalifnemi ata atid litendin v'cheshbon. Sache devant qui tu devras donner des comptes, enfin, le din et le cheshbon et des comptes. A priori, ça devrait être dans l'autre sens, alors. Alors, au nom du Gaon, c'est très connu que le Gaon, je vous l'ai probablement déjà dit, que le Gaon considère que quand on juge quelqu'un, le din, c'est sur le passé. Il a fait dans le passé une faute. Mais c'est pas tout. Il faudra aussi donner un cheshbon. N'est-ce pas? Dans le texte, il est dit « din » et « cheshbon ». Mais a priori, on pourrait dire il faut d'abord faire le cheshbon des choses, on va faire le décompte, puis ensuite on va juger. Mais là, « din » et « cheshbon », ce n'est pas dans le bon ordre. Alors le Gaon explique que le « din », c'est quand on juge quelqu'un sur le passé. Mais ce n'est pas tout, en fait. Une fois qu'on l'a jugé sur le passé, « tzarich liten cheshbon al sheotzi zmano levatala ba'etai » Le cheshbon, c'est il va falloir donner des comptes pour le fait que pendant qu'on a fait les averot, on n'a pas fait de mitzvot. Et d'une certaine manière, ça a l'air même plus important que les dînes. Donc si maintenant quelqu'un a fait tshuva, si sa tshuva, c'est une tshuva mais ahava, alors il n'a plus besoin de faire de cheshbon non plus, puisque maintenant il n'a plus que des mitzvot. Il a des mitzvot. Les averot sont devenus des mitzvot. Donc, il n'y a plus même de temps perdu à faire des averot, temps perdu parce qu'on n'a pas pendant ce temps-là fait des mitzvot. C'est ça le... considérer les zdonot comme des... Zechuyot. Seulement, si quelqu'un a fait tshuva me'ira, bien qu'il ait fait tout ce qu'il faut pour la tshuva, du point de vue du din, il n'y a plus rien à lui reprocher, on lui reproche plus, on vient pas lui demander des comptes pour le mal qu'il a fait. Maintenant, ça y est, on t'a pardonné. On n'en parle plus. Seulement, le cheshbon, il reste encore là. Pendant ce temps-là, on n'a pas fait les mitzvot qu'on pouvait faire. Et ça, on ne l'a pas annulé à Kippour, puisqu'on a fait une tshuva qui n'a fait que annuler les fautes. Mais on n'a pas positivé le temps pendant lequel on a fait des fautes et où on aurait pu faire des mitzvot. D'après ça, on comprend que si on va continuer dans cette idée, la tshuva qu'on fait pendant les Aseret Yemei Tshuva, c'est des Yemei Adin encore. C'est du Din encore. Tshuva Me'ira, c'est évidemment une tshuva par crainte, puisqu'on est dans le problème du Din. Et ensuite, Keshe Mechavvin HaMitzvah, maintenant c'est quand on se réjouit, quand on montre combien on tient la mitzvah de Souka et Lulav, ça, on le fait besimcha. Smartem lifne Hashem elokechem. Vous allez vous réjouir devant Hashem, votre Dieu. ça montre qu'on fait une tshuva, mais ahava. Ça donne une dimension de ahava à la tshuva. Et maintenant, on peut comprendre effectivement toute cette histoire. Qu'est-ce qu'il y avait à régler encore après Kippour ? À régler, eh bien, il y a le Cheshbon à régler. On n'a pas réglé le Cheshbon. J'ai fait tshuva à Kippour, mais c'est à cause de Emata Din, c'est parce que j'ai peur du Din. Mais le Cheshbon, il est encore là. Alors maintenant, en fait, celui qui a fait une mitzvah, et puis ensuite, par Ahava, il a des sruyotes, et donc il n'a pas de cheshbon. Alors on trouve le midrash qui dit c'est rishon le cheshbon avonot. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a le cheshbon qui porte aussi sur les fautes. Parce que peut-être jusqu'à maintenant, on n'était pas tour du cheshbon. Puisqu'on a fait tshuva mais ahava. On est dans la ahava dans ces 4 jours. C'est un peu étonnant, si on peut parler comme ça, parce que on a l'impression qu'on est plus dans la ahava, dans la préparation de la soukha et dans la recherche d'avoir un bel étrog ou etc., plutôt que dans l'être dans la soukha et dans le fait de dire le halel avec un loulav. Puisque le compte, à partir du premier jour de Soukhot, on est dans les cheshbon de nouveau. Pourquoi à ce moment-là, on ne considère pas que c'est la continuation? Donc on comprend deux choses par ce que dit le Beit Ephraim là-bas. D'abord, les jours de Tshuva, ils ne se terminent pas avec la Khatima de Kippour. Ils continuent jusqu'à Soukhot. Parce que, comme on a expliqué, il faut régler le problème du cheshbon. Donc on voit aussi une nouvelle idée, en quelque sorte, dans le travail de la simcha. La simcha spécifique de Soukhot. Cette simcha qui vient après la avoda de la tshuva qu'on a faite à Rosh Hashanah Kippour, Yom Ha'Din, on voit que cette simcha-là, elle est plus importante que la yira, que la crainte. Ça veut dire qu'on s'élève à Soukhot à un niveau plus élevé, même plus élevé à Soukhot que Tshuva Me'ahava. Mais Tshuva Me'ahava, c'était avant Soukhot. Mais Soukhot vient après. Dans la Tshuva Me'ahava, les Zdonot ont été, comme on l'a dit, transformés en Sruyot. Et donc, on ne peut pas nous demander des comptes là-dessus. Donc c'est comme si on avait fait des mitzvot pendant ce temps-là. Et donc, Soukhot est un jour de... Enfin, c'est une période de Simcha pour montrer que dans cette Simcha qui accompagne la mitzvah, on est arrivé en quelque sorte à ce niveau de Tshuva Me'ahava qui termine en quelque sorte tout le cycle des fêtes de Tishri, des Yamim Noraim, en fait. On peut un peu donner un peu plus de goût à tout ça, en fait. dans Orot Tzadikim, il écrit que Aliede Emuna Ubitachon Simcha, avec la Emuna, la confiance et la joie, Noten Libo Lehov et Hashem, Bechol Levavo. Ça vient à aimer Hashem de tout son cœur. Va'osek be mitzvah be simcha mitmale ahavat Hashem. Et celui qui fait la mitzvah avec simcha, il se remplit d'amour d'Hashem. Et à Sukkot, on a l'obligation, vous savez, la Sukkah, ça s'appelle en araméen Tziluta de Me'emnuta. Ça s'appelle l'ombre de la Emuna. Betzel Haemuna, on est dans l'ombre, protection par rapport au soleil donc, dans l'ombre de la Haemuna. Maintenant, dans faire les mitzvot de la fête, on nous a dit qu'il fallait les faire donc dans la Simcha, Samarta B'Chagecha, parce que, grâce à cela, en quelque sorte, la tshuva des Yamim Noraim devient une tshuva Me'ahava. Jusque-là, elle était une tshuva Mi'ira, et maintenant, c'est Me'ahava. Donc, la Simcha ici, d'après ça, c'est pas une Simcha sur le fait que Hashem a agréé notre démarche de Kippour. C'est une simcha qui vient de ce qu'est Sukkot, qui était fixé comme un moed, un rendez-vous fixe, pour faire une mitzvah, pour faire des mitzvot dans la simcha, dans la joie. De telle sorte que ça arrange, ça améliore le résultat de Kippour. Donc on comprend un petit peu ce qu'on a vu de ce Yiratson où il dit que grâce à ça j'ai le mérite Tetiv Lanoua Khatima, c'est-à-dire tu nous arranges, tu améliores, tu bonifies la Khatima, le fait Kippour qui est le sceau, on a scellé les choses à Kippour, comme on dit Borosh Hashanah Ikatevu. Biyom Tzom Kippour Ichatemun, ça veut dire le jour de Kippour, c'est scellé. Grâce à la mitzvah Sukkah, faite de Simcha, cette tshuva, on a dit, cette tshuva, elle devient tshuva Me'ahava. Et donc, tout le din est le cheshbon, et du coup, tetiv lanu achatima. Donc maintenant, vraiment, la chatima, c'est-à-dire la dernière opération, est une opération totalement positive. Maintenant, on n'a plus de problème de ce point de vue-là. Donc, on prend aussi un peu ce qui est dit au début de ce Yiratson, qui se route Tsetim Ibeti par le mérite du fait que je sors de ma maison et que je me dépêche de faire tes mitzvot. Alors que ce soit considéré comme si j'étais en galoute, je suis allé en exil. On avait dit que c'était un peu compliqué à comprendre, c'est un peu léger comme exil. En fait, le chiouf de galoute, ici, il vient pas parce que j'ai été condamné éventuellement à quelque chose, condamné à l'exil à Rosh Hashanah Kippour. Le problème de l'exil, il vient de la klala. Le tachat asher lo avat et Hashem Elokecha besimcha. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui est dit? Si tu n'as, parce que tu ne l'as pas fait, alors ve avat et oivecha asher ishamchen. On voit, hein? Dans ce cas-là, parce que tu l'as pas fait bisimcha, alors tu vas servir ton ennemi. C'est-à-dire tu vas être au service de l'ennemi, c'est ça le galout, n'est-ce pas? Où on est au service des ennemis. Donc on voit que le manque de simcha dans l'Avodat Hashem, c'est ça qui entraîne la nécessité du galout. Donc du coup, maintenant, quand on fait la mitzvah de soukha dans la simcha, alors ce onesh de galout, là, il disparaît. Puisque ça venait d'un manque de simcha, et maintenant j'ai remis une dose de simcha. J'ai refait les choses comme elles devaient être faites dans la simcha. Zakeni leshev yamim rabim ala adama, que j'ai le mérite grâce à ça de résider longuement sur la terre d'Israël, parce que le kiyum de la mitzvah dans la simcha va enlever le din de galout. Et donc, si on n'est pas en galout, alors on est à l'admat kodesh, je veux dire. Maintenant, on peut comprendre cette histoire des 98 cabris ou agneaux qui viennent compenser les 98 clalotes. Dans le Chinuch, Sefer HaChinuch, il explique que l'idée des corbanotes pendant la fête de la manière suivante. Adam nif'al fima aseu. C'est un grand principe du Sefer HaChinuch, que l'homme est nif'al, c'est-à-dire il est agi, en fait, il fait quelque chose, mais il y a un effet, il y a une réflexion, c'est une réflexion en quelque sorte. Avec ce qu'on fait. Étant donné que, dit-il, parce que nous sommes des êtres matériels, alors nos pensées ne collent vraiment à la chose seulement lorsqu'on fait des actes. C'est-à-dire, l'important, ce sont les actes. Et pour cette raison-là, Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire des actes spécifiques pour la journée en question. Un Sukkot, ça, un Pessah, pour faire ça. Un Shavuot, le gâteau au fromage, c'est tout. Pourquoi? Parce que le but de l'exercice, c'est pas tellement l'acte qui est fait, qui vient de moi, qui va, mais c'est la résistance, c'est l'action, la réaction, si vous voulez. Il y a mon action, et puis mon action, elle entraîne une réaction. C'est-à-dire à une action sur moi. Une action qui vient de moi, en fait, elle entraîne une action qui entre en moi, qui vient vers moi.
Ah, c'est ça, qu'il est agi, c'est ça.
Oui. L'idée du Zman Simchatenu, qui est donc la caractéristique de Sukkot. On a une mitzvah de Simcha à Pessah, à Shavuot, mais ni Pessah ni Shavuot ne sont appelés Zman Simchatenu. Zman Simchatenu, c'est Sukkot. D'après ce qu'on a vu plus haut, c'est pas seulement une Simcha parce qu'on a eu la Kapara. Mais l'essence de ce temps de Sukkot, qui est ce temps où nous avons un tzivouï, on a un ordre, un conseil très appuyé, de faire la mitzvah de cette fête-là, le simcha, afin que on complète, on achève vraiment la kapara de Yemei Hadin. Grâce à cette fameuse histoire de Tshuva, mais Ahava. C'est-à-dire, il y a, pour chacune de ces fêtes de pèlerinage, en dehors du fait qu'on est invité à aller à Yerushalayim, mais il y a la mitzvah Tayom, il y a la mitzvah du jour, il y a la mitzvah des matzot, le premier jour, il y a la mitzvah du Korban Pessah. La mitzvah, Yom, c'est de Matan Torah, c'est l'étude. Et à Sukkot, la mitzvah Yom, ben c'est la Sukkah et le Lulav. Et il n'est pas dit explicitement dans la Torah, tu mangeras dans des matzot en te réjouissant, c'est dans la joie. Par contre, c'est marqué sur les mitzvot spécifiques de Sukkot, tu les feras dans la joie. C'est-à-dire, la Sukkah et le Lulav doivent être des mitzvot faites dans la joie. On a demandé un jour à... J'ai raconté à M. Feinstein. Je ne fais pas ces choses-là. Donc, il disait que quand les gens font les mitzvot, ils font les choses. Mais ils donnent à comprendre que ça leur pèse. Ils donnent à comprendre que, d'une certaine manière, si j'y étais pas obligé, je ne le ferais pas. Alors, les enfants qui ne se sentent pas vraiment obligés de cette manière-là, ils disent, qu'est-ce que je vais me casser la tête ? Balançons tout ça et soyons heureux. Parce que beaucoup d'enfants, effectivement, n'ont pas suivi du tout les parents parce que la voie que les parents indiquaient était une voie trop... dont les parents eux-mêmes n'arrêtaient pas de dire que ça les faisait souffrir. Il manque complètement la simcha. C'est important, disons, dans l'éducation des enfants, de faire passer le message. Vous avez dit vous-même, en dehors du fait que c'est lié au temps. Mais c'est ça la raison. Alors, l'idée est comme ça. Si je ne me trompe pas, jusqu'à présent, j'ai essayé d'expliquer les Gmarot, qui expliquent que les femmes n'ont pas d'obligation d'aller en tant que telles à Yerushalayim ou en pèlerinage, etc. Et puis, là-bas, dans cette Gmara, dans Sechet Hagiga, on énumère toutes sortes de gens qui sont dispensés d'aller. Les gens qui ne peuvent pas bien marcher, ou bien si quelqu'un est borgne, par exemple, il n'a pas besoin d'y aller parce que comme on va voir et être vu par Hachem. Il faut expliquer ce que ça veut dire voir, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a à voir et qu'est-ce que ça veut dire être vu. Mais bon. Alors, on dit de la même manière que Hachem, évidemment, quand il te regarde parfaitement. De même, il faut que toi aussi tu puisses regarder parfaitement, et donc, si déjà tu n'as pas les deux yeux, donc, là on pourrait considérer que, et maintenant si quelqu'un doit y aller avec ses lunettes, quoi, d'accord, il y a le borgne, mais, et si quelqu'un ne voit pas, il ne voit pas bien sans ses lunettes, ou sans ses lentilles, est-ce qu'il est dispensé d'aller? Je ne sais pas, c'est une question qu'on pourrait se poser, mais, du coup, ces gens-là qui sont dispensés, par exemple, quelqu'un est trop vieux, il ne peut pas marcher. Là. On pouvait aller en voiture jusqu'à Yerushalayim, mais monter d'Yerushalayim sur l'Arabaït, il fallait monter à pied. Et quelqu'un est trop fatigué, il ne peut pas marcher. Il est dispensé. Il n'a pas, c'est pas que... Il n'a pas la mitzvah, il n'est pas chayav. On pourrait dire il a la mitzvah, mais il est empêché. Et quand quelqu'un est empêché, du coup, la Torah ne lui en tient pas rigueur. Mais c'est pas ça, il est dispensé vraiment. Comme les femmes en sont dispensées aussi. Donc je réfléchis, pourquoi ces gens-là sont dispensés? Si la mitzvah, là-bas c'est, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais visiblement c'est énorme. D'aller voir et être vu par Hachem, ça devait être quelque chose qui vous nourrissait en tout cas d'un Yom Tov à l'autre, de Pessah à Shavuot, de Shavuot à Sukkot, et de Sukkot à Pessah. Si quelque chose vous nourrit de telle manière, comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'il est dispensé? S'il est dispensé, ça veut dire, même s'il y va, ça n'a pas la même valeur que s'il y était obligé. Laisse-le avec son obligation et dis que, bon, puisqu'il ne peut pas, ben il ne peut pas, il est à nous. Mais si par exemple, il le fait quand même. D'accord, le type, il ne voit pas bien, mais ok, ça n'empêche pas d'aller à Yerushalayim, mais de vouloir monter. Pourquoi il n'aurait pas exactement, il n'a pas le même sroute, puisque quand quelqu'un fait une mitzvah à laquelle il n'est pas astreint, il n'a pas le même salaire, ou ça n'a pas la même valeur que quand on est astreint. Certains disent que c'est à cause de problèmes de la désobéissance. Si je suis obligé de faire, alors j'ai la tentation de la désobéissance. Si je ne suis pas obligé, je n'ai pas ce problème-là, donc on a moins de mérite. Bon, même si ce n'est pas ça. En tout cas, il a moins de mérite. Pourquoi il a moins de mérite? Pourquoi? Ça veut dire que ça ne le nourrit pas de la même manière. Pourquoi? On ne peut pas comprendre. Il n'y a pas de réponse. C'est totalement injuste. Alors, la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est qu'il n'en a pas besoin. S'il est dispensé, qu'il n'en a pas besoin. Ça veut dire qu'il y a dans l'expérience de celui qui ne voit pas bien, dans l'expérience de la vieillesse, dans l'expérience, et du coup par analogie aussi, dans l'expérience d'une femme, il y a quelque chose de suffisamment nourrissant, si on peut parler en ces termes-là, pour qu'on n'ait pas besoin de cette nourriture dont les hommes ordinaires ont besoin. Alors, justement, si il y a le problème du Cheshbon, visiblement, prenons l'histoire du Cheshbon, parce que le Gaon a dit, il y a le Cheshbon de le temps pendant lequel j'ai fait les Averot, pendant ce temps-là, j'aurais pu faire des mitzvot. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, disons, en termes de temps pour les femmes? Je pense qu'il y a une façon de remplir le temps quand on ne fait pas de mitzvah chez une femme, qui n'est pas du tout la même que la façon de remplir le temps quand on ne fait pas de mitzvah chez un homme. Un homme qui ne fait pas de mitzvah, c'est rien, il perd son temps. Une femme, d'une certaine manière, je parle d'une femme standard, quoi, longtemps, elle ne perd pas son temps. Elle est toujours en train de faire quelque chose, de penser sa maison, etc., et elle ne perd pas son temps de cette manière-là. Bien sûr, il y a des exceptions, ça dépend si la femme si c'est une grand-mère, si elle a des enfants en bas âge, si elle n'a pas d'enfants, si elle n'est pas mariée, si elle n'a pas de maison. Et ce sont des tas de choses, mais disons, en général, si on prend la femme standard, si vous voulez, elle est toujours en train de faire quelque chose. La Gemara, elle dit que dans une maison, les vieillards, quand c'est les hommes, ils cassent les pieds. C'est les femmes, elles sont toujours utiles. Elles font toujours quelque chose. C'est comme ça. C'est impressionnant, je veux dire. C'est impressionnant, vu. C'est impressionnant de voir. Pour moi, c'est impressionnant de voir. De voir faire la vaisselle, par exemple. Moi, si je devais faire la vaisselle, je remplirai la baignoire d'abord. Et quand vraiment on ne peut plus, on a sorti tout ce qu'on peut, alors on se fait un moment de... Mais non, là, vite. C'est fait sans que ça pèse, semble-t-il. Ben, je crois. Vous êtes peut-être mieux placé que moi pour en parler, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai à avoir toutes sortes de gens faire ce genre de choses. Je ne dis pas du tout que c'est le rêve, mais ça se fait de façon... J'ai l'impression que le temps, dans le Cheshbon, c'est le problème de temps, le temps perdu, en fait, chez une femme, n'est pas vraiment perdu, en tout cas pas perdu du tout, de la même manière que pour un homme. En plus du fait que l'homme étant astreint à étudier à tout moment, c'est gravissime quand il perd son temps. La femme n'ayant pas cette obligation-là, il y a moins de gravité. Même si elle perdait le temps de la même manière qu'un homme, ça serait moins grave, puisque elle n'est pas astreinte à chaque instant. Un homme, a priori, il n'a pas d'excuse. Tu es obligé d'étudier. Il n'y a pas le choix.
Ça paraît très responsable.
Pardon ?
Ça paraît très responsable.
vis-à-vis du temps d'être assis, d'être vis-à-vis d'Hachem. Bon, et Hachem vous a donné ses éléments de faire comme ça. Mais je pense que c'est apparaît très positif. Et en même temps, pour des actes représentatifs, comme le témoin, la femme.
C'est autre chose. Là, on parle de mitzvot à Sechazman Grama. Ça rien, l'histoire du témoignage. Ça n'a rien à voir avec le temps.
Oui.
Donc ça, c'est autre chose. On peut en parler à un autre moment, mais ça, c'est pas la question que vous avez posée. C'est, elle est liée avec le temps, parce que Freshbon, il est lié avec le temps. Non. Oui, non. Mais toutes les loulav, oui, il est lié avec le temps, puisque le loulav, c'est à Koussouf, à Soukot. Non, ça, lui est lié avec le temps, ça veut dire c'est quelque chose qui vient qu'à des moments bien précis. C'est-à-dire, si il n'y a pas de loulav à Pessah.
Non, c'est pas ça, c'est que on voit des femmes, il y a des femmes qui viennent de loulav.
Les Ashkenaziot, elles ont pris sur elles de faire le loulav et Tkiat Shofar. C'est Kabbalah dans la tradition ashkenaz.
Non,
elles écoutent le chauffard. Elles peuvent se sonner le chauffard pour elles-mêmes, certainement aussi d'ailleurs.
Il
n'y a pas l'obligation d'aller écouter le chauffard. C'est devenu un minhag qu'on y va, aujourd'hui on y va, etc. Mais minadin, les femmes ne sont pas astreintes à ça. Dans la bracha, il y a un problème avec la bracha, c'est bracha al-batala peut-être. La bracha, c'est pas. Mais de toute manière, la bracha n'est jamais, c'est pas me'akev, ça veut dire que quand on a une mitzvah à faire, et qu'on a un doute sur la bracha, il faut la faire ou pas, on fait pas la bracha. La mitzvah, elle est entière, elle est faite, même si on fait pas la bracha. Bon, c'est histoire de famille, là, mais c'est... Oui. Oui. Sur le lulav. Oui. J'ai rien compris. Pardon? Bon, mais c'est pas en. C'est même si c'est comme ça, on va pas dire que quand elle fait une avéra, elle fait perdre du temps à son mari. C'est son temps à elle qu'elle perd, par rapport aux mitzvot qu'elle aurait pu faire pendant ce temps-là. Quand je dis, il me semble, par comparaison avec ce que je vois dans les mitzvot où on dit qu'ils sont pas tours, ils sont dispensés, je pense que, pour l'instant, je m'explique les choses comme ça. Il y a sûrement des meilleures explications, mais pour l'instant, c'est ce que je comprends, moi. Si vous avez mieux, je suis preneur. Le deuxième jour, il est mis des Rabbanan. Le premier jour, il est mis la Torah. Mais le des Rabbanan, c'est aussi une obligation. Mais ça n'a pas la même... Par exemple, quand il y a un safek sur quelque chose, si c'est des Rabbanan, alors on va le kula. C'est-à-dire, on choisit la voie légère. Alors que si on avait le même safek le premier jour, c'est de Raita, alors on choisit la voie sévère. Mais nous, on a mis le deuxième jour par rapport au loulav, etc. On lui a donné les mêmes dinim que le premier jour. Parce que normalement, le loulav, l'essentiel du loulav, c'est le premier jour. Et les autres jours, on est moins sévère sur les qualités du loulav. Et comme vous avez, on l'a lu... C'est marqué « Ulkartem lachem » « Vous prendrez pour vous un loulav ». Donc on apprend que le loulav doit nous appartenir. D'accord, je ne peux pas m'acquitter du loulav avec quelqu'un d'autre, le loulav de quelqu'un d'autre, sauf si cet autre me donne pas la permission, mais il me donne le loulav. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne, ça s'appelle matana almenat l'arzir. Je te le donne à la condition que tu me le rendes. Et ça, c'est considéré comme celui qui a reçu dans ces conditions-là, c'est comme si c'était à lui à ce moment-là. S'il ne le rend pas, alors il s'avère que ce n'était pas à lui, donc il n'a pas fait la mitzvah. Donc il a avantage à le rendre, de ce point de vue-là. Oui, bon, ça c'est un... Bon, je vous dis juste la vérité en passant, que par conséquent, par contre, le troisième jour, par exemple, on a aussi la mitzvah de l'oulav, je n'ai pas besoin que ça m'appartienne. D'accord ? Je prends un loulav qui appartient à quelqu'un, s'il est d'accord, il n'a pas besoin de me le donner. S'il est d'accord, c'est bon. Et non, c'est du vol, mais s'il est d'accord, je peux le prendre sans problème. Vous comprenez ? Or, le deuxième jour, c'est des rabbanans. Normalement, on devrait appliquer la loi que je vous ai dite sur le troisième jour. Mais on est mahmir, on est plus sévère et on fait attention le deuxième jour aussi. Ce qui nous fait des problèmes avec les enfants. Parce que si vous... C'est difficile d'éduquer un enfant en lui mentant. Mais si vous lui donnez votre loulav, un enfant, si on lui donne quelque chose, il l'acquiert. C'est à lui. Mais lui, il ne peut pas donner. Donc il ne peut pas rendre. Donc si vous donnez votre loulav à un enfant, c'est cuit. Le deuxième jour, vous ne pouvez pas être yotzé avec. Donc on ne peut pas lui donner, ou alors il vaut mieux lui acheter un loulav. Parce que, ou alors il faut avoir à soi-même deux loulavim, et bon, il y en a un qu'on lui laisse. Parce que le premier jour, si tu veux le faire faire la mitzvah comme il faut lui donner, et si tu lui donnes, tu ne peux plus le récupérer. Alors le troisième jour, ça n'a pas d'importance, puisque même si c'est à lui, je peux être yotzé quand même, mais le deuxième jour, puisqu'on veut le traiter comme un premier jour, on veut que ça soit à moi, je ne peux pas. Et ça, c'est parce qu'on a fait la Khumra. Si on ne faisait pas cette Khumra, en Eretz Israël, par exemple, où ils ne font pas le deuxième jour, ils n'ont pas ce problème. C'est compliqué. De quoi ? Il n'a pas de yad, il a pas d'auto... Juridiquement, il est personne. Il est trop petit. C'est pas je parle en mineur, hein. Il n'est pas bar mitzvah, commercialement, il peut pas agir. Deux. Il peut faire la mitzvah. Il faut lui acheter un loulav. Non, si. Si je lui donne, ça devient à lui. Mais après, je ne peux plus le récupérer. Si j'ai un seul loulav et que j'en ai besoin demain, il ne pourra pas me le rendre. Parce qu'il n'a pas de yad. Une fois que quelque chose est à lui, il ne peut pas s'en dessaisir. Il n'a pas la puissance de donner ou de vendre. Il ne peut pas. Il est mineur. Il ne peut pas. Aujourd'hui, en France non plus, il ne peut pas.
Est-ce que tu dis ça à la propriété, si il est mineur pour vendre, mais il est mineur pour acheter.
Non, il n'achète pas. C'est moi qui lui donne. Il ne peut pas acheter. Mais si on lui donne, c'est moi qui fais le travail pour lui mettre dans la main, en quelque sorte. Quand on fait le travail pour lui, il acquiert. Lui, de lui-même, ne pourrait pas acquérir, mais moi, je fais le travail en lui donnant. Ce que disait le... On a vu donc le chinour avec son action et de réaction. On a dit que la simcha, donc, c'est pas seulement une simcha de kapara, mais c'est la simcha, on a le privilège d'avoir reçu des mitzvot d'Hachem. Non, c'est pas rien. Et c'est ça le Rambam qui dit que, en général, il y a une mitzvah de Simcha, mais à Sukkot, il y a une super mitzvah de Simcha. Parce qu'en fait, à Sukkot, il y a deux mitzvot de Simcha. Il y a la mitzvah qui vient des Yamim Noraim, et il y a la mitzvah qui est celle qu'il y a à toutes les fêtes. Donc, et ça n'existe qu'à Sukkot. Parce qu'effectivement, il y a la rencontre de deux cycles, en quelque sorte. Il y a le cycle des fêtes de Tishri, si vous voulez, et il y a le cycle des fêtes de pèlerinage. Et à Sukkot, elles arrivent, elles se rencontrent. Ces deux cycles se rencontrent. Et donc, on peut terminer avec ça. Le Gaon, en ce qui concerne le Mezigat Akos, le fait de de couper le vin à Sukkot, la mitzvah du Chag, la mitzvah de Sukkot, elle permet d'adoucir les dinim de Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parce que quand on fait cette mitzvah de Zman Simchatenu, on la fait vraiment avec Simcha, on s'élève à un niveau plus élevé même que la Tshuva Me'ahava. Les Zdonot deviennent effectivement des Zruyot, mais en plus de ça, donc ça va adoucir les dinim, mais en même temps, en plus de ça, il y a la simcha de tous les yamim tovim, de tous les autres jours de fête. Voilà, on va s'arrêter là.